ce premier temps et puis cette présentation de livres et de Bible. Oui, il est important de lire la parole, de l'étudier, de la mémoriser. En tout cas, nous voulons, au fur et à mesure, donc parcourir ces livres pour que vous puissiez avoir aussi une meilleure compréhension de ce qui est dit et que cela nous serve, bien sûr, pour notre édification. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 10. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que faire pour avoir la vie éternelle? Alors, cette question, c'est un docteur de la loi qui l'a posée à Jésus-Christ, à notre Seigneur. Donc, m'appuyant sur cette question, nous allons voir quelle réponse le Seigneur donne. Et il y a en fait deux questions. La première, c'est que faire pour avoir la vie éternelle ou hériter la vie éternelle? Et le Seigneur donne une réponse et après, le docteur de la loi va dire, mais au fait, mais qui est mon prochain? Et le Seigneur va donner une deuxième réponse par rapport à cette dernière question. Alors, nous sommes là dans ce texte de Luc chapitre 10. Nous lisons aujourd'hui les versets 25 à 37. Avant, nous avons vu que le Seigneur il disait donc aux 70 disciples qu'il avait envoyés et donc étaient revenus, qui se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. Et le Seigneur leur dit de se réjouir plutôt de ce que leur nom était écrit dans les cieux. Et là, il y a un contraste avec ce docteur de la loi qui, lui, se pose la question que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ou que faut-il faire pour que mon nom soit écrit dans les cieux? Et là, le Seigneur va nous éclairer et voir aussi ce que le Seigneur attend pour nous qui avons mis notre confiance en lui et ce qu'il attend de nous qui disons être sauvés. Alors, j'aimerais vous inviter à lire ce passage dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, et en vue cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit donc le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Voilà, nous arrêtons là pour la lecture. Donc nous nous appuierons sur les réponses du Seigneur Jésus-Christ pour répondre à cette question, que faire pour avoir la vie éternelle? Et peut-être qu'en cet instant, quelqu'un se pose cette même question. Que dois-je faire pour hériter ou que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Un peu comme ce jeune homme, le jeune homme riche qui a dit à Jésus dans Luc chapitre 18, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc c'était pas, vous voyez, c'était pas seulement ce docteur de la loi qui se posait cette question, et nous allons voir que tout homme doit se poser cette question-là. Et dans Actes chapitre 16, c'était le geôlier, lorsque l'apôtre Paul était donc en prison, et Silas, ils ont entendu Paul et Silas chanter les cantiques, etc. Et après, ils disent, voilà, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc tout ça, c'est la même question. Que faut-il faire pour être sauvé? Cette question est la plus importante qu'une personne devrait se poser. Puisque tôt ou tard, cette personne se trouvera confrontée à cette réalité qu'est l'éternité. Et dans Ecclésiaste, Salomon il dit « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et même si vous voulez ignorer Dieu pendant toute votre vie, et comme cela se voit malheureusement, et si on a la possibilité d'être au seuil de la mort, on réfléchit à cela. Parfois, il y a des gens qui meurent brutalement suite à un accident. Là, ils ne peuvent pas le faire. Mais le Seigneur nous dit effectivement qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque vous ne savez pas si aujourd'hui vous pouvez disparaître. Alors, la question c'est, donc quel que soit, par exemple, la motivation de cet homme, il dit que c'était pour éprouver le Seigneur qui lui pose cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Serait-ce, même si c'est pour lui, le docteur de la loi, c'était pour éprouver le Seigneur, et d'autres, c'est peut-être pour se moquer, et pour d'autres, c'est une recherche sincère de savoir comment faire pour être sauvé. Alors, il faudrait un jour répondre à cette question. Et chacun devrait se poser cette question. As-tu la vie éternelle? Et si on ne vous posez pas cette question, alors tôt ou tard, vous serez confronté à cela. Et la question, c'est si tu dois mourir aujourd'hui, où iras-tu? Auras-tu la vie éternelle avec Dieu? Où seras-tu dans les temps de feu pour l'éternité avec le diable? Il y a deux chemins. La Bible n'en présente que deux. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. D'où cette question et cette bonne question de ce docteur de la loi, même s'il venait avec de mauvaises intentions. Que doit-on faire pour hériter la vie éternelle? Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Que doit-on faire pour être sauvé? Alors, Marc nous a présenté des livres et nous a rappelé l'importance de lire la Bible. Et là, je notais que c'est la première des choses que le Seigneur, à mon sens, montre là. C'est que il est important de lire les écrits. Il est important de lire les écrits de la loi. Il est important de lire l'Ancien Testament. Puisque c'est la réponse que donne Jésus. Alors il pose la question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu ?» C'est là la réponse de Jésus. Pour dire que on trouve dans l'Ancien Testament des éléments qui doivent nous pousser à réfléchir par rapport à cela. Et là, le docteur de la loi, il va réciter donc ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, il cite Deutéronome chapitre 6, verset 5, Lévitique chapitre 19, verset 18. Le jeune homme riche, dans Luc chapitre 18, il va poser aussi cette même question à Jésus, ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur va lui dire, mais tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc à chaque fois, que ce soit pour le docteur de la loi ou dans Luc 18, le jeune homme riche, le Seigneur revient au commandement. Le Seigneur revient à la loi. Pour dire que la lecture de ces passages va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Il ne faut pas le négliger. Dans Romains, l'apôtre Paul, il dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et je note que la lecture de la loi est essentielle parce qu'elle nous fait connaître les exigences de Dieu pour avoir une vie sainte qui lui plaise. Lorsque le Dieu trois fois saint a donné des lois, a donné des règles et il demande à son peuple Israël de vivre selon ses règles pour pouvoir être un témoignage pour les autres nations. Et que si on n'obéissait pas à ces règles, c'était la mort. Et donc ça nous permet de savoir quelles sont les exigences de Dieu pour avoir une vie sainte, mais ça nous permet aussi de prendre conscience de notre état de pécheur devant Dieu. Et c'est en ça qu'il est important de lire, puisque c'est en lisant la loi qu'on se rend compte que finalement, on est incapable de faire ce que Dieu demande. C'est en lisant la loi qu'on voit le péché devant nous, on voit l'état de notre cœur. C'est en lisant la loi qu'on voit qu'on mérite la mort. Donc, c'est important de lire. Et dans Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 3, et quand vous lisez Romains, l'apôtre Paul, il va expliquer en quoi tous les hommes sont des pécheurs. Que l'on soit païen ou juif, il dit, voilà, juifs ou païens, nous sommes tous des pécheurs et nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et c'est en cela qu'il va dire après, il dit que nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc tout le livre des Romains, mais aussi des Galates, l'apôtre Paul explique l'importance de la loi et son but. Et l'auteur, donc Jacques, nous dit aussi que il suffit de commettre un. Alors, il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Il dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, finalement, il est impossible d'observer, de mettre en pratique. Quelqu'un ne peut dire, voilà, moi, j'ai fait tout ça. Alors, ah, tiens, le jeune homme riche, c'est un peu ce qu'il voulait dire. Donc que ce soit ce docteur de la loi, qui c'est un spécialiste de la loi justement, tout comme le jeune homme riche, ces personnes connaissaient la loi, mais cette connaissance de la loi n'était pas suffisante pour avoir la vie éternelle. Mais cette connaissance de la loi était nécessaire pour prendre conscience de leur état devant Dieu et de leurs besoins d'un sauveur, pour pouvoir être justifié, ce qui veut dire pour pouvoir être déclaré juste par Dieu. Alors, d'où l'importance de lire. J'ai déjà entendu des témoignages, des personnes qui me disent, voilà, j'ai pris la Bible du début, et j'ai commencé à lire, et plus je lisais, plus je voyais que j'étais un pécheur, et c'est ça qui m'a fait me tourner vers Jésus. Tout simplement. L'autre chose, c'est que il faut reconnaître son incapacité à obéir à la loi. Alors, la loi dit, et donc c'est un résumé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Reconnaître son incapacité à obéir à la loi. Dans ce livre, on trouve ça dans Deutéronome 6, je vous ai mis les références, au chapitre 6, au chapitre 8 aussi, on voit à chaque fois Moïse, il fait le lien entre la loi qu'il a donnée et l'obligation pour le peuple à observer la loi, à le mettre en pratique. Et chaque fois Moïse dit, cette loi, ben, tu obéiras, tu mettras en pratique ces lois. Donc le Seigneur dit à cet homme, puisqu'il cite la loi, il dit, ben, fais cela et tu vivras. Fais cela et puis tu auras la vie. Pour avoir la vie éternelle, l'homme doit faire ce que dit la loi. Mais, comme je l'ai dit, on sait que c'est impossible. Et visiblement, ce docteur de la loi savait qu'il n'arrivait pas à mettre en pratique la loi. Et après, il est dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, on cherche toujours à se justifier. Et lui, au lieu de dire, mais c'est impossible, j'ai essayé, même je suis un spécialiste de la loi, mais au lieu de reconnaître son incapacité, il va dire, mais au fait, mais c'est qui mon prochain? On aime bien passer à côté, on n'aime pas, au lieu de voir la réalité en face, on préfère passer à côté. Et le jeune homme riche, c'est ce qu'il va faire aussi dans Luc chapitre 18, verset 18 à 27. Il va dire à Jésus, mais j'ai observé ça depuis que je suis tout petit. Lorsque le Seigneur Jésus va lui donner la liste. Et dans Marc, je crois qu'il dit que le Seigneur l'aima. Un homme qui cherche à observer la loi. Mais malgré le fait qu'il savait qu'il avait fait toutes ces choses depuis tout petit, il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle, puisqu'il demande à Jésus ce qu'il devait faire pour l'avoir. Donc, il cherchait par ses propres forces à appliquer la loi, à faire les choses dans les règles, et en même temps, dans son cœur, il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Alors, pourquoi? Et c'est là que le Seigneur va mettre le doigt sur la raison pour laquelle il n'avait pas l'assurance de son salut. Le Seigneur va lui dire, ben, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et toi, viens, suis-moi. Et nous connaissons cette histoire où le jeune homme va repartir tout triste parce qu'il aimait sa richesse, il aimait son argent plus que Dieu. Et donc, en cela, il enfreignait à la loi. En cela, il montrait qu'il aimait son argent plus que Dieu. En cela, il montrait aussi qu'il n'aimait pas son prochain. Et donc, c'est pour ça qu'au fait, dans son fort intérieur, il savait que malgré tous ses efforts, il n'avait pas la vie éternelle. Alors, vouloir pratiquer les œuvres de la loi n'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle parce que il est impossible pour l'homme ou à l'homme de faire ce que la loi ordonne. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché en nous. Et à cause du péché, le péché vient entacher même toutes les bonnes choses qu'on voudrait faire. Le péché est là et révèle notre état. Et c'est pour ça qu'il faut mettre sa confiance en Jésus. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, puisque l'homme était incapable par lui-même d'observer la loi. Et Jésus est celui qui a tout accompli, et en mettant notre confiance en lui, il dit que Dieu nous déclare juste. Et dans Galates, au chapitre 3, verset 24, l'apôtre Paul dit que la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi a été donnée comme un précepteur, quelqu'un qui est là pour nous conduire, il est dit, donc jusqu'à Christ. Et puis, une fois qu'on est à Christ, on n'a plus besoin de la loi, puisque nous l'accomplissons comme il est dit. Alors, le texte de Romains, chapitre 3, et que vous pouvez lire à la maison, et dans ce passage, il est dit que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont des pécheurs, et sont reconnus coupables devant Dieu, que la justice de Dieu s'accomplit par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient sans distinction, et que l'homme est déclaré juste par Dieu, par la foi en Jésus-Christ, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi, parce qu'en Christ, il a tout fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi aux Galates, au chapitre 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Puisqu'il y avait cette question, alors il y avait certains juifs qui voulaient que les personnes non juives, les païens, pratiquent les œuvres de la loi pour pouvoir être sauvés. Et l'apôtre Paul explique que le païen n'a pas besoin de pratiquer les œuvres de la loi puisqu'il est en Jésus-Christ. Et qu'en Christ, voilà, Christ a tout accompli pour lui. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il faut reconnaître justement son incapacité à observer, à faire tout ce que demande de la loi à cause du péché. La troisième chose, c'est reconnaître la dureté de son cœur. Pour hériter la vie éternelle, il faut reconnaître finalement la dureté de son cœur, reconnaître qu'on est pécheur, tout simplement. Puisque pour aimer son prochain comme soi-même et montrer qu'on aime Dieu, puisque les deux vont ensemble, le Seigneur Jésus donc va raconter à ce docteur de la loi l'histoire donc du bon samaritain que tout le monde connaît, même les gens qui ne connaissent pas la Bible, mais ils connaissent l'histoire du bon samaritain. Et il va lui raconter cette histoire pour lui expliquer qui est son prochain et ce qui est attendu de lui. Et là, dans cette histoire du samaritain, il est dit que donc le samaritain fut ému de compassion pour cet homme laissé à demi mort et lui montra son amour. Il lui montra son amour en lui apportant donc les premiers soins. Le verset 34, il s'approche de lui pour voir dans quel état il était. Il va bander ses plaies en lui versant de l'huile, du vin. Donc il ne va pas regarder à la dépense. Puis il le fait monter sur sa propre monture, il est dit, pour le conduire donc dans une hôtellerie et prendre soin de lui. Donc il va lui apporter ses premiers soins et il va permettre que cette personne qui a été attaquée donc par ces brigands puisse pouvoir se reposer et se refaire. Et puis l'autre chose, c'est qu'il va prendre en charge tous les frais. Il prend en charge les frais liés à son hébergement et demande à l'hôte de s'occuper de cet homme, lui promettant même de rembourser tous les frais sans en connaître le montant. Il dit, voilà, et lorsque je reviendrai, ben, je paierai, donc, voilà, toutes les dépenses. Donc, il ne sait même pas combien qu'il aura à payer. Et le Samaritain, donc, a aimé son prochain en mettant à son service ce qu'il avait, son temps. Il s'est arrêté, hein, alors qu'il avait peut-être des obligations, hein, pour s'occuper de cet étranger. Il a pris le temps de s'arrêter et il a mis au service de son prochain ses biens, le vin, l'huile, sa propre monture, son argent. Donc le Seigneur encourage donc le docteur de la loi, le scribe, à faire comme ce Samaritain qui a eu compassion de cet homme en lui disant, au verset 37, « Va et toi fais de même ». Il lui montre que sans forcément connaître la loi comme ce docteur de la loi ou les sacrificateurs ou les lévites, qui étaient donc des gens qui connaissaient la loi, que ce Samaritain, sans pour autant connaître la loi, il a exercé la compassion et que la loi finalement était inscrite dans son cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Romains chapitre 2. Hein, mais il dit, et c'est avant de lire Romains, le Seigneur dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et ce Samaritain, c'est ce qu'il va appliquer. On ne sait pas s'il avait entendu la parole de Dieu ou l'évangile, on ne sait rien de lui. Mais cet homme a tout simplement usé de bonté. Et dans ce texte de Romains, chapitre 2, versets 13 à 15, il dit ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Et après, il dit que il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour en parlant des païens qui n'ont pas la loi. La loi est inscrite dans le cœur. Et je disais tout à l'heure que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Mais Dieu, l'homme est fait à son image, met dans son cœur ce qui est bien, ce qui est mal. Et pour qu'il puisse faire la différence, Dieu met dans le cœur aussi sa parole, tu ne tueras point, toutes ces choses, ça, même si la personne n'a jamais lu la Bible, la personne sait qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et donc, la loi de Dieu est écrite dans le cœur. Et le Seigneur Jésus, il a exhorté, par exemple, le jeune homme riche qui disait avoir observé la loi à user de compassion envers les pauvres. C'est ce qu'il lui dit, il te manque une chose à faire, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est ça que le Seigneur lui dit, sois un bon samaritain. Il dit à ce jeune homme riche, voilà, aie compassion de ton prochain. Et le jeune homme riche, il repart tout triste, tout simple, parce que son cœur était dur, et comme le nôtre. Et ces sacrificateurs, ces lévites qui voient cet homme-là dans le besoin et puis qui passent outre, alors c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils ne s'arrêtent pas. Et c'est ce que dit Jérémie, hein, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oui, le cœur, il est méchant. Et à cause de sa méchanceté, il ne veut même pas s'arrêter pour aider celui qui est dans le besoin. Et c'est à cause de tout cela qu'il faut reconnaître son besoin de Jésus pour son salut. C'est parce que notre cœur est mauvais. C'est parce que nous sommes des pécheurs. C'est parce que nous sommes incapables d'exercer, de pratiquer, de faire ce que la loi demande pour être agréable à Dieu. C'est reconnaître notre état devant Dieu, nous humilier devant lui et dire « Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, mon cœur, il est dur, et toi, Seigneur Dieu, je crois que tu peux le transformer. Tu peux le changer. Et parce que si on veut mettre en pratique la parole de Dieu et faire preuve de miséricorde envers son prochain, alors le cœur de l'homme, notre cœur a besoin d'être changé. Et c'est justement ce que Dieu fait. Lorsqu'une personne reconnaît qu'il est un pécheur devant Dieu, lorsqu'une personne reconnaît son incapacité à faire ce que Dieu demande pour avoir la vie éternelle. Et là, Dieu, par son esprit, va convaincre cette personne de péché, de justice et de jugement, il est dit. Et cette personne va fléchir les genoux et va dire, oui Seigneur, je reconnais, je te demande pardon, aie pitié de moi. Et viens Seigneur Jésus, parce que je crois que c'est toi qui as pris mon péché. C'est ce que dit la Bible. Et c'est à cause de moi que tu es allé sur cette croix. C'est parce que je suis un pécheur. Et parce que j'étais incapable de faire ce que Dieu demande. Et lorsque l'apôtre Paul il va et Silas, ils vont répondre à cet homme qui a dit, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, ben, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque Pierre il a annoncé la parole, il a dit, mais que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, c'est reconnaître votre péché, demander pardon à Dieu, puisque vous l'avez offensé. Convertissez-vous, c'est le même terme, mais ça implique aussi cette idée de tourner le dos à une vie de péché. C'est vivre différemment. C'est arrêter de faire ce qu'on fait qui est mal pour se tourner vers Dieu et faire ce que Dieu demande. Ce n'est pas de dire oui, je crois en Jésus et puis je continue à vivre dans le péché. Ça, ce n'est pas une conversion. La conversion, c'est lorsqu'on tourne le dos à cette vie d'idolâtrie, à cette vie de péché, pour on reconnaît et on dit à Dieu, maintenant je veux vivre comme toi, tu me le demandes. Le jeune homme riche, après avoir entendu ce que le Seigneur lui avait demandé, le Seigneur lui dit, fais tout ça et puis viens, suis-moi. Donc le jeune homme riche, il est parti tout triste. Il aimait ses richesses plus que Dieu. Donc il n'a pas répondu à cet appel, viens et suis-moi. Et le Seigneur Jésus dit, voilà, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui aiment les richesses plus que Dieu. La foi en Jésus, donc, est la seule condition pour hériter la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13, alors on peut lire ce passage. Dans 1 Jean, alors, dans 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13, il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et voilà, donc, c'est la condition, mettre sa foi en Jésus. Et en croyant en Jésus, le chrétien reçoit son esprit, nous dit la parole, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui accomplit en nous donc la justice de la loi grâce au sacrifice de Jésus, et puis qui répand aussi dans notre cœur, il est dit, l'amour de Dieu. Et ça, c'est dans Romains chapitre 5, verset 5. Donc voilà, on devient chrétien, on a la vie éternelle, On n'a pas besoin de chercher à observer la loi, mais on le fait parce que cette loi, elle est inscrite dans notre cœur et on cherche à honorer Dieu. Dieu met en nous son amour, donc la compassion, la miséricorde. Et d'où cette question, mais que fait celui ou celle qui a la vie éternelle? Je vais prendre le temps. Et donc, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, et vous qui allez le faire, qu'est-ce que Dieu attend de vous, si ce n'est de montrer la réalité de votre foi? Puisque la foi, c'est pas quelque chose, ça c'est intérieur, mais ça doit se voir. Ça se voit en aimant le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que Dieu attend de nous, en tant que chrétiens. Et aimer Dieu, plus que tout, et Dieu, le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, ça se voit dans la recherche, le fait de vouloir obéir aux commandements de Dieu. Et le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné nous pousse à aimer notre Seigneur et à garder ses commandements. Ça, c'est le signe, l'un des signes du chrétien. Quelqu'un qui aime Dieu et qui veut apprendre à le connaître, d'où les livres. Et qui passe du temps à lire la Bible, à étudier, parce qu'il cherche à connaître Dieu et à mettre en pratique ses commandements. Et si on ne les connaît pas, les commandements, on ne peut pas les mettre en pratique. L'autre chose, c'est qu'il aime son prochain. Et il aime son prochain comme lui-même. Et l'apôtre Jean, il dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'aime beaucoup Jean parce qu'il est direct. Hein. Tu dis ça, mais t'es un menteur, il dit. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment aimer mon frère ou ma soeur ou mon prochain selon Dieu? Alors, c'est en faisant comme ce Samaritain. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, à être comme ce Samaritain. User de compassion envers l'autre qui est dans le besoin, en mettant à son service ce que nous avons, notre temps. Prendre le temps de s'arrêter pour s'occuper de l'autre et lui apporter notre aide. Et lorsque nous faisons des choses ensemble, nous arrêtons de faire certaines choses pour pouvoir faire autre. Alors c'est ça, nous donnons de notre temps. Nos biens, c'est aider l'autre matériellement si on a les moyens. Mais les offrandes que nous donnons, ça sert à ça. Pour l'œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu, ça consiste aussi à aider les uns et les autres. Les talents ou nos dons, il faut les mettre au service des autres. Et en faisant ça, nous faisons preuve de compassion. Nous montrons que nous aimons notre prochain. C'est aussi pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et dans 1 Jean au chapitre 3, et tout comme Jacques, il y a des situations concrètes où il dit « mais ce n'est pas possible de dire qu'on est chrétien si on voit son frère qui est dans le besoin et on lui ferme les yeux ». Jacques dit, tu dis que tu as la foi, mais montre-moi tes œuvres. L'un ne va pas sans l'autre. Alors lisez ces textes de Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, ou 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 24. Mais l'autre chose aussi, c'est que, je dirais que c'est en étant honnête avec l'autre. Ne pas abuser de la compassion de l'autre. Puisque c'est ça aussi, aimer son prochain. Parce qu'il y a des gens qui savent, tiens, il faut qu'il soit un bon samaritain. Donc, il faudrait qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela pour moi. Et ce texte de Romains chapitre 13, versets 8 à 10, que l'apôtre Paul il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'amour ne fait point de mal. Alors, aimer son prochain, c'est pas chercher de profiter de lui. On sait qu'il est gentil, mais c'est pas parce qu'il est gentil que je vais tout lui demander, sous prétexte qu'il est gentil. Et ce texte de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, alors 2 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 3, à partir du verset 6, il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous voyez ? Et donc, soyons des Samaritains, manifestons l'amour envers les uns et les autres, aidons ceux qui ont besoin d'être aidés, mais le Seigneur nous donne aussi la sagesse pour voir qu'il y a certains qui abusent de cette gentillesse, voilà. Et c'est ça aussi, aimer son prochain, c'est ne pas chercher à abuser de l'autre, ne pas profiter de l'autre. Aimons-nous les uns les autres, c'est ce qu'il est dit. Alors, que doit-on faire pour hériter la vie éternelle, pour terminer? C'est, donc comme je l'ai dit, il est important de lire les écrits de l'Ancien Testament, la loi dans les cinq premiers livres de la Bible où le Moïse il donne les règles que Dieu donne. Reconnaître son incapacité à obéir à la loi, donc à aimer Dieu de tout notre cœur, mais aussi aimer notre prochain. Reconnaître la dureté de notre cœur et reconnaître son besoin de Jésus pour son salut. Et pour nous qui avons donc la vie éternelle, nous qui avons fait tout cela et reconnu notre besoin et accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, je rappelle ce verset de 1 Jean 5, verset 13, « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors rendons grâce, frères et sœurs, à notre Dieu pour le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. On ne mérite rien. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour aimer notre Seigneur et notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, puisque c'est là la volonté de notre Dieu. Et plus nous allons ressembler à Jésus-Christ, alors plus nous allons aimer Dieu. Et l'autre chose, c'est que le Seigneur nous encourage aussi à obéir à son commandement, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Donc en faisant preuve de miséricorde envers les autres, puisque la miséricorde, il est dit, triomphe du jugement. Et puis laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour discerner lorsqu'il faut aider celui ou celle qui est réellement dans le besoin. Donc, s'il est réellement dans le besoin, il faut aider. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, que le Saint-Esprit nous éclaire pour savoir ce qu'il faut faire. Refuser de le faire si la personne vit dans le désordre, il ne faut pas non plus encourager à vivre dans le désordre. Donc, si la personne refuse de travailler, justement pour aider celui qui est réellement dans le besoin. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre ces choses. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, alors vous avez entendu, voilà, que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur. Et puis pour nous qui l'avons fait, alors aimons notre Seigneur de plus en plus et notre prochain à l'exemple de ce Samaritain.